j'étais prête à sortir. J'étais sur le palier. Ça sonnait. J'ai dit, allez, rentre. Et c'était pour me dire, le livre a été donné à Europresse. Voilà. J'étais arrivée en Inde. Maintenant, il y a un nœud dans ce livre. Alors, je suis obligée de vous le dire.
Nous ne savions pas combien nous serions. Nous ne savions pas quand arriverait Charles Maxence. Nous ne savions pas que Yolande Lemoine viendrait. Nous ne savions pas ce que nous allions dire à la quarantaine de personnes rassemblées autour de nous. Sauf qu'il s'agissait des textes de Sapremme. C'est le Café d'Auroville, organisé par l'association Auroville Internationale France. Nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement, un soir du mois de janvier 2015, à l'atelier Fil Rouge.
Ce soir, on accueille Charles Maxence Layet, qui est le rédacteur en chef de Orps, et Yolande Lemoine, qui a bien connu Sapremme, qui connaît Auroville aussi.
Depuis 40 ans.
Donc, et voilà. Et donc, qui a reçu un certain nombre de lettres que, aujourd'hui, de façon inédite, seront publiées dans la revue Orps.
L'idée de la revue Orps est venue et découle directement du voyage que j'ai fait à Auroville en 2011. C'est-à-dire, je suis allé là-bas 15 jours en février 2011. Et en décembre 2011, donc ça a déclenché pas mal de changements. Je travaillais à ce moment-là comme assistant parlementaire à Bruxelles. Et donc, j'ai flanqué ma démission au mois de mai. Et en septembre, donc, j'étais libéré de mes obligations et de mon service civil, pourrait-on dire. Et en décembre, donc, j'avais l'idée de lancer cette revue. Je n'avais pas forcément l'idée avant. J'avais l'idée de lancer une revue qui serait en quelque sorte un planète d'aujourd'hui. Donc, un planète d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui va à la fois, qui va chercher à relier les choses et à ouvrir des perspectives. Donc, ce qui fait qu'à la fois, on va parler d'art, de science, d'humanité et de conscience. Et ce qui fait que par rapport au contenu de la revue, on va autant parler d'économie que parler de parapsychologie, que parler de peuple premier, que parler d'art sacré, que parler de tout ce qui peut se passer dans notre monde d'aujourd'hui, qui font sens, qui sont sans doute d'utilité générale, alors que malheureusement, ces choses-là, éparses, vont être recouvertes par une sorte de bruit de fond. Ou en tout cas, ça ne va pas forcément sortir de certains cénacles, de réseaux ou de groupes relativement confidentiels, comme par exemple des travaux extrêmement intéressants, majeurs, qui vont être produits dans un contexte universitaire, mais qui vont mettre peut-être 4-5 ans avant de commencer à sourdre vers le grand public. Et donc, dans les choses aussi qui me semblaient faire sens, parce que dans notre époque de surinformation, de problèmes de bruit de fond, on fabrique de l'oubli. On fabrique de l'oubli en étant surinformé. Ça, on ne se souvient pas des choses, on ne se souvient pas de ce qu'on a lu sur Internet 3 jours plus tôt, etc., etc. Certes, des grands événements émotionnels vont nous marquer, on va en garder une trace, mais par rapport au flot et au déluge d'informations dans lequel on est baigné en permanence, grosso modo, tout ça fabrique de la mémoire à très court terme avec une info jetable. Donc, ce qui fait que par rapport au contenu présent dans la revue, il y a notamment des choses qui ont pu être écrites ou rédigées dans les années 70 ou 80 et qui continuent à être d'actualité aujourd'hui, même si on a oublié qu'elles ont existé. Et ce qui fait que, par exemple, dans le numéro 0 de Orbs, on a, le hasard a fait que quasiment le bouquin m'est tombé dessus, on a pris des extraits du dernier livre, on a republié donc des extraits, des bonnes feuilles du dernier ouvrage de Barjavel, qui s'appelle « Demain le paradis ». Et puis, on a cheminé ainsi, et puis à un moment, c'était il y a quelques mois, moi j'ai lancé quelque chose comme ça, une bouteille, comme je peux faire parfois, en disant « ça serait génial quand même de publier des choses de Sapremme, mais des choses qu'on n'a pas forcément déjà lues ». Et puis donc, un mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, arrive l'information que des lettres inédites de Sapremme circulent, des correspondances qui n'ont pas été publiées jusqu'à présent. Et donc, je ne vais pas dire que je bondis dessus, mais je dis « ah ben ça, en tout cas, ça m'intéresse d'en prendre connaissance ». Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance de Yolande, qui m'a donc laissé prendre connaissance des lettres. Et donc, je suis revenu vers elle avec une sélection de lettres, avec des extraits de cet ouvrage à venir, qui va paraître, c'est une évidence, c'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Et donc là, dans le prochain numéro de la revue, qui va sortir entre février et mars, grosso modo, on va avoir comme ça, donc, le temps de l'inattendu, des extraits de lettres inédites de Sapremme, grâce à Yolande, qui a eu la gentillesse, la disponibilité, le cœur d'être présente avec nous ici ce soir. En tout cas, moi, j'ai souhaité qu'elle soit présente avec nous.
Je l'ai essayé depuis 40 ans.
Pourquoi avoir attendu autant de temps ?
Comment ?
Pourquoi avoir attendu autant de temps ?
Ça ne voulait pas.
Alors, ce que je vous propose avant qu'on discute, parce que l'idée aussi, comme l'a dit Nadia ou comme l'a dit Gilbert, je pense qu'on peut dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on soit dans la rencontre de la parole, dans l'accueil de la parole. Donc, je vais peut-être commencer directement. Je vais vous proposer ce soir, en tout cas, j'ai imaginé qu'il y aurait 3 lectures. Donc, je vais vous en faire une première et puis on va continuer à cheminer. Il y en aura une seconde et puis une dernière pour conclure. Donc, c'est une lettre de Sade Prême de février 1978 à mes amis lecteurs et lectrices. Nous sommes dispersés, éloignés, chacun sur son petit continent, avec des petits soucis, des grands soucis, et la vie comme tous les jours. Pourtant, ce n'est plus comme tous les jours. Une merveilleuse histoire cherche à se glisser à travers les fils de notre trame, si nous voulons bien. Que pouvons-nous faire pour aider cette histoire, pour hâter son moment? Il faudrait tellement que cela aille plus vite. La terre est douloureuse, nos petits continents sont si gris et périmés. Ici et là, nous sommes quelques-uns comme des petits points de soif ardente. Et que faire pour aider cette espèce nouvelle à naître parmi nous? Certainement, la plus grande aide est d'appeler cette autre chose, ce demain de la terre, dans son cœur, dans ses actes, ses pensées, avec chaque pas, chaque geste, sourdement, obstinément, comme on cogne à une porte, comme on appelle l'oxygène et l'espace et le sourire dans cette grisaille suffocante. Appeler, c'est faire invisiblement pousser les ailes de l'autre espèce, c'est faire un trou dans la carapace de l'habitude. S'il n'y avait pas une nécessité, jamais les espèces ne seraient sorties de leur trou gluant. Nous sommes dans le trou gluant du mental. Appeler, on ne sait quoi, c'est déjà tâtonner dans l'avenir, c'est déjà toucher une plage ensoleillée pour laquelle nous n'avons pas encore Dieu. Mais peut-être faut-il beaucoup Dieu pour qu'elle soit. Une espèce nouvelle, ça se fait ensemble. Il y a une contagion dorée, comme un jour, beaucoup d'oiseaux prennent leur vol pour le pays ensoleillé. Si nous étions beaucoup, cela hâterait peut-être l'heure du pays de mer. Pratiquement, vous pouvez aider au travail en répandant l'œuvre, le sens, la dynamique de tout cela. Il faut que d'autres touchent, il faut que d'autres sentent, respirent un peu cet air léger qui tente de se faufiler à travers les mailles de la vieille trame. Il faut goûter la chose, se laisser aller un peu à ça. Vous qui aimez mère, qui avez senti ce sourire, ce grand possible battre, donnez-vous un peu, sortez de votre coquille, allez porter cet imperceptible frémissement du monde nouveau. Les livres de mère, l'agenda, ne sont pas vraiment des livres, ni même une explication. Une philosophie nouvelle. C'est un pouvoir d'action, c'est une force en mouvement. C'est un levier. Si vous les mettez dans les mains d'un ami, dans la vitrine d'un libraire, de votre quartier ou de votre ville, dans un coin de journal ou de revue, sur un bout d'affiche improvisé, ils jasiront au-delà de toute compréhension, au niveau les plus inattendus, comme un minerai radioactif. C'est peut-être bien le minerai du nouveau monde. Alors empoignez-vous, faites le travail, et un grain de cœur a des résultats inattendus. En comblant d'autres, vous serez comblés. Et finalement, nous y serons tous, ensemble, comblés, dans ce jardin de l'avenir qui est le sens même de ces millions d'années d'espèces mentales inadéquates. Comment ça s'est passé, Yolande, cette rencontre avec Sade Prême?
Une longue vieille histoire. Je commence?
Un peu.
Jamais entendu parler. Je faisais autre chose. J'arrive en Inde, en 69. Quelqu'un m'avait soufflé, je connais Sade quelque chose qui est à Pondichéry. Alors, je vais à Pondichéry chercher Sade quelque chose. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas où il habite. Je suis en tenue de ville et je trouve un grand jardin. Il y a un taulier que j'ai exécré tout de suite, qui m'a regardé trop, qui a regardé mes jambes, pas le reste. Alors, j'ai dit, Sade quelque chose, c'est quoi? Sade Prême. Où il habite? Là. Où peut-on le voir? Là. À 5 heures tous les soirs. Il vient dans le jardin. Alors j'attends dans le jardin. Et il est arrivé. Et il m'a regardé. Et il m'a dit, alors? Alors j'ai dit, alors? Qu'est-ce que vous foutez là? Je n'en sais rien. Et il m'a dit, c'est la première lettre du livre, « Ne faites plus rien. » Alors vous venez ici ce soir pour ne rien faire, si vous êtes d'accord. on peut la lire. Il faut se brancher au-dedans. C'est le tout premier, elle est dans le livre. Ne faites plus rien. Il faut apprendre à se brancher au-dedans et tout s'arrange spontanément au-dehors. Les vraies choses s'organisent derrière le voile. Alors vous aurez une action utile et spontanée. Et puis il me laisse là. Moi, j'ai rien compris. J'ai pas pris de notes. Et il s'en va. Alors, je me suis dit, ils sont dingues ici. Alors je me suis mis sur une pierre et puis j'ai pris un bout de crayon. Puis j'ai commencé à essayer de me rappeler ce qu'il venait de dire. Et puis une fille arrive, très jolie, cheveux au vent, jean. Qu'est-ce que tu fous là, cette heure-là, au bord de l'océan ? Ben, j'en sais rien. As-tu lu l'aventure de la conscience de Sartre Prem ? Non, rien lu. Alors, il faut le lire, le livre. Et puis, elle s'en va. Arrive une seconde bonne femme, joyeuse, épanouie. Elle était comédienne à La Haye. Tiens, lis ça, toi. C'était le livre. Je me suis dit, ça va vite ici. Arrive une voiture, quatre policiers qui descendent en disant « Madame, on ne reste pas au bord de l'océan comme ça le soir, toute seule. Vous êtes en Inde, vous n'êtes pas en Occident. Ben, » j'ai dit « Oui, mais oui, oui, je sais, je sais. » Allez, montez. Pour aller où ? À Auroville. C'est une ville qui va se construire à 8 km d'ici. Je suis montée dans la voiture. Je ne les connaissais pas. Puis je me disais le long du chemin. Où vont-ils m'emmener, mais des policiers ? Un homme a ouvert la porte de la voiture, il m'a regardé. Suis-moi ! Je suis. Il allait dans le canyon qui relie l'océan à la terre. Et il dit, je vais accrocher une ville ici, comment je vais m'y prendre ? Ben, j'ai dit, j'en sais rien. Ben. Il ne me dit rien d'autre. C'était l'architecte en chef d'Auroville, qui avait épousé la petite fille de la mère. Je ne savais rien. Alors, on a fait le tour du canyon. On marchait mal, on était dans du sable. Il m'a remis dans la voiture des policiers qui m'ont ramené à mon hôtel. Et à partir de là, j'étais possédée par une trouille épouvantable. Je me suis dit, on arrive ici, on ne connaît personne, tout le monde s'empare. Qu'est-ce que je vais devenir ? Alors, je ne me couche pas, j'avais un trou comme ça dans ma serrure. J'avais peur, mais peur, une peur panique. Qu'est-ce que je suis venue foutre en Inde ? Et à minuit, quand la cloche sonne à l'église, j'ai été prise d'une trouille pire que tout et je me suis sauvée. Sauvée. J'ai quitté l'endroit, j'ai couru au bord de l'océan et j'ai vu qu'il y avait une lumière qui clignotait. J'ai appelé, c'était Roger Anger qui était là, qui m'a dit « Il y a une chambre pour toi, tu vas te reposer, il ne peut rien t'arriver ici ». La mer, sur Robindo, j'étais complètement piégée. Il est parti, j'ai pas dormi. J'ai attendu 6 heures du matin, et à 6 heures du matin, on m'a délivrée. On m'a collée avec une femme, avec des enfants, avec des gens. J'étais bien, je suis restée 2 mois. Et depuis, j'y suis allée 80 fois. En 40 ans. Et j'ai toujours rien compris. Si ça vous réconforte. Mais c'est plutôt marrant à vivre comme ça. Autrement. C'est tout.
Juillet 76. Nous sommes à un moment de l'histoire de la Terre. Je ne parle pas de l'ashram ni même d'Auroville. De la Terre entière où la partie se dispute entre les forces du passé et celles qui veulent faire l'avenir. Le monde nouveau, le vrai monde. À ce moment-là, chacun choisit. Chaque conscience choisit comme chaque groupement ou chaque peuple. Nous ne sommes plus à la Renaissance italienne, ni même au merveilleux temps de Voltaire, où chacun pouvait jouer avec des humanismes divers et plus ou moins chatoyants et tolérants. Ce n'est plus le moment de l'humanisme, c'est celui où l'homme tout simplement est en jeu, son avenir ou sa mort dans la grande suffocation qui est en train d'étrangler le monde. Alors il faut savoir où on est. Il faut savoir ce que l'on veut et avoir le courage de le vouloir. La toute première qualité du nouveau monde, c'est le courage. Mère l'a assez dit. Pour faire et créer cet avenir, il faut avoir une âme de héros. C'est encore Mère qui l'a dit. Donc on se bat. Et si, dans notre cœur profond, nous savons que l'ennemi lui-même est le divin qui se cache, si nous savons que les bourreaux et les traîtres et les menteurs innombrables sont là pour forger notre propre force et notre propre unité et notre propre pureté, et que même la mort est là pour nous contraindre à découvrir ce que cache son masque, ce n'est pas une raison pour embrasser la mort et le mensonge et les gangrènes diverses qui s'attaquent au corps de la terre. Un jour, Sri Krishna est venu sur le champ de bataille avec Arjuna et il a mis en pièces les Kauravas. On ne joue pas avec les Kauravas, on les tue. Seulement, nos armes ne sont plus le glaive extérieur, elles sont le glaive intérieur, le courage, la pureté, la transparence et sans compromis. Tout ce que l'on donne à l'ennemi, en pensée, en parole ou en acte, est une trahison de la vérité de notre âme. Nous sommes au temps de la bataille, Yolande. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette petite terrasse. Et les guerriers de mer, les rares petites étincelles qui croient en elles, sont trop peu nombreuses pour que l'on puisse fléchir, sophistiquer et perdre notre sang. Si vous comprenez cela vraiment, si vous avez ce courage-là et cette compréhension-là qui vient du cœur et non de la tête, alors votre voyage aura été salutaire et nous nous reverrons pour le travail. Ça pulse.
Toujours.
Yolande, je pense que ça peut être assez intéressant de raconter ce qui a pu se passer autour des agendas de mer avant qu'ils existent, les agendas de mer.
On en parlait tellement, mais elle les avait
dans... Je parle des valises, hein.
La mère les avait dans sa chambre. Satprem allait tous les soirs la voir. Ils lisaient des textes, ils corrigeaient ensemble, mais ça ne sortait pas de là. Et un jour, j'ai reçu un télégramme. Votre présence en Inde, immédiatement. J'y suis allée. Et on m'a dit, ça fera 80 kilos de bagages. J'avais une chance inimaginable. Mon mari était un des grands directeurs d'Air France. Donc j'allais, je venais, je pouvais avoir des excédents de bagages et tout. Je me suis présentée. Indira Gandhi perdait le pouvoir ce jour-là. Donc plus d'aide, plus de protection, rien. Mais M. Tata, qui était le président de tas de choses, et des compagnies et des machins, m'a conduit jusqu'à l'avion avec tous les volumes. J'ai été embarquée, il m'a dit maintenant allez dormir. Alors j'ai dormi, et arrivé en douane, je prends un chariot, je mets tout dedans, 6 heures du matin, le douanier me dit « Et vous, qu'est-ce que vous rapportez ?» Et je réponds « Rien. Passez !» Et une valise est tombée sur ma jambe. Il la ramasse. Il me dit « C'est lourd. » J'ai dit « Très lourd. Passez. » C'est sorti comme ça. Sans aucune difficulté. Ça, c'est quand même épatant, non ? Alors, je les ai gardés un petit peu chez moi. Il fallait trouver le lieu, il fallait tant de choses. Tout s'est fait. Tout. Tout. Pas un seul problème. Pas une panne. Rien. On a sorti tous les volumes comme ça.
Direct.
Est-ce qu'on est capable de vivre notre quotidien comme cela ? Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment la grande question que je peux...
C'est extraordinaire. On a de l'aide inestimable. Ça J'ai récupéré... 40 ans de lettres de Satprem. Je les avais d'abord planquées en disant « Je suis vieille, je peux disparaître demain matin. » Donc, je les ai confiées à un médecin. Puis, les lettres ont commencé à circuler. Un petit peu partout, sur Internet et machin. Je lui ai dit « C'est pas le moment, on n'a même pas regardé. » Je les reprends. Je les mets chez moi sur ma table à repasser. Elles sont toutes là. Je dors avec 40 ans de lettres de Satprem. Et j'attends. Et ce soir, le livre est parti pour l'Inde. Et il sera édité en Inde. C'est tout ce que je sais. J'ai rien d'autre.
Il va être édité où en Inde ?
À Europresse.
D'accord, donc à Auroville.
Voilà, c'est tout. C'est le seul coup de fil que j'ai. Rien d'autre. Alors, je laisse les choses aller. Je ne m'en occupe pas. C'est très confortable.
Il faut accepter le saut dans l'inconnu, quoi.
L'inattendu. Puisque ça veut, puisque ça peut,
puisque ça pousse, et ça pousse.
Faites. C'est pas moi qui fais. Ça se fait autrement. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de je, moi.
Mais faut être dans l'être.
C'est la chose qui était plus difficile à enlever, ça. Faites comme vous voulez, après tout. Hein. Si ça veut, ça veut. J'ai dit à ça de près, mais retournez-vous un petit peu. Il y a pas de gens qui sont en manque maintenant. Tout le monde attend, tout le monde est en panne. Alors, et hop, ça y est, ça s'est déclaré hier. Alors, je vous donne le truc.
Qu'est-ce qui s'est déclaré hier?
Eh bien, tout, le coup de téléphone de l'Inde, l'impression, le livre, tout. Et je suis là avec vous à cause de lui, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas il y a 2 mois.
C'est une lettre du 26 juillet 75. Je ne suis pas un devin, je ne suis pas un voyant. J'ai une certaine perception globale du mouvement du monde, et parfois des êtres au sein de ce mouvement. Votre ami Tata est l'un de ceux-là. Il me semble qu'il y a une lumière ou une force avec lui, d'une qualité particulière, qui appartient à ce mouvement tout naturellement. Tandis que d'autres êtres, comme Malraux, par exemple, s'effacent, sont comme enveloppés dans la grisaille et ne semblent pas faire partie du mouvement. J'ai perçu aussi en votre ami un autre homme, le vrai, qui attend l'heure. Vous, Yolande, vous êtes très bien accordé au mouvement. Il y a une harmonie naturelle qui vous fait tout naturellement faire ce qu'il faut pour travailler dans ou au mouvement. Par vous, les choses ou les êtres ou les circonstances se joignent bien. Maintenant, où va-t-il ce mouvement? Là aussi, j'ai une perception globale de ce que l'on pourrait appeler le grand plan du monde, parce que Sri Aurobindo et Mère me l'ont appris. Je sais où ça va, et dans une certaine mesure, je perçois les événements qui vont dans le sens ou non, qui sont symptomatiques ou épisodiques. Et je sais que tout, dans le moindre détail, va vers ce but. Un nouveau monde infiniment plus radical que tout ce que nous pouvons imaginer, et plus beau et vrai. L'Inde a son rôle très particulier à jouer dans ce grand plan, un rôle symptomatique du tout et de tout le reste du monde. L'Inde, disait Mère, est devenue la représentation symbolique de toutes les difficultés de l'humanité moderne. L'Inde sera le lieu de la résurrection à une vie plus haute et plus vraie. C'est dans l'Inde que sera la guérison. C'est-à-dire que le mouvement de transformation de l'Inde est le signe et le symbole du mouvement de transformation du monde. Mais c'est aussi le symbole de toutes les difficultés à résoudre. L'Inde est devenue une énorme façade mensongère avec des millions et des millions de fonctionnaires comme une pieuvre qui paralyse le pays. Ces millions-là sont des électeurs. Ils ne produisent rien, ils ruinent le pays, lentement et sûrement. Et personne ne veut se priver des électeurs. Cet énorme mensonge doit s'écrouler, et l'écroulement de ce mensonge sera le signe précurseur du changement du reste du monde. 1975.
Dans ce jardin. Mais attendez, la première fois, j'avais 4 ans, peut-être 5 ans, pas tout à fait 5 ans. J'étais dans une fête foraine. Il y avait une poupée à gagner, grande comme moi, donc 4 ans, 5 ans, la poupée était comme ça, en carton bouilli, elle était moche comme tout, elle avait des joues rouges, des cheveux collés en carton, et une robe de pile ou mauve. Je peux vous dire comment était la robe de pile ou mauve, avec les petits volants et les trucs. Je ne gagne pas la poupée, alors je pleure. Et un monsieur qui a gagné la poupée me la met dans les bras. Et on me dit, comment elle s'appelle ta poupée? Et je réponds, elle s'appelle Tata. Tata, ça veut dire bonjour en Inde, mais ça je ne savais pas non plus. Et j'aurai Tata sur mon chemin pendant 50 ans. Avec une poupée, vous vous rendez compte? La poupée, je ne l'ai pas gardée parce que j'avais pissé dessus, on a dû l'acheter. Mais je l'ai aimée beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça l'Inde pour moi. Vous en voulez plus?
Non, la question c'était,
qu'est-ce qui m'a emmené en Inde? Une poupée.
Qu'est-ce qui vous a emmené en Inde pour la première fois, c'est ça?
Alors, la première fois, la poupée. Puis ensuite, j'ai épousé un monsieur qui avait un très grand poste à la France. Première conférence internationale. On me met entre le prince Bernard, le machin truc, et le machin, machin, et monsieur Tata. Et qui me regarde,
lui, c'est un grand industriel.
Il était président de tout, énergie atomique, énergie machin, toutes les énergies.
Lagardère, quoi.
Air India.
Alors il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Je venais de me marier.
Hein. Et il a beaucoup aidé Auroville.
Alors je lui ai dit, ben, je vais voyager, je vais, je ne sais pas, peut-être que je ne sais pas, mais je ne vais pas m'embêter, ça c'est sûr. Alors j'ai eu ce premier contact avec l'Inde et j'ai vu cet homme pendant 20 ans, mais sans allant en Inde, il était tout le temps à mes côtés. Tout le temps, il me disait, alors l'Inde, ben moi, je sais pas. Puis mon mari est parti, il est arrivé, il s'est occupé de tout, il m'a poussé partout. On a vu Madame Gandhi 8 fois, on a fait des trucs, on a fait plein de trucs, on a sorti les livres et voilà. C'est tout, c'est trop long. C'est une histoire longue. Et aujourd'hui, je sais pas, je suis avec vous.
Mais c'est une très bonne chose. Là.
C'est une belle histoire.
Un grand privilège.
Comment ?
Un grand privilège.
J'ai été très aidée, très aimée, très conduite, même avec celui-ci, que je ne connaissais pas. Il a débarqué chez moi sans le connaître. On me l'a amené. Il a dîné, il a rangé la table, il a tout rangé bien. Tout bien. Très sympa. Et c'est vrai, très sympa. Moi, je remarque toujours ceux qui savent et ceux qui ne savent rien faire. Et puis c'est tout, puis nous voilà. En fait, la vie est pleine d'inattendus. C'est ça qui est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Même quand ça brûle, même quand ça saute.
Et c'est vrai que nous avons ça tous les jours.
On a eu ça il y a 15 jours. Alors, si on ne tient pas compte de ça, donc on a des protections, donc on est aidé, donc on est aimé, donc on peut avancer, donc on peut continuer. Et surtout, on peut parler de ça, parce que là, il y a quand même une autre vision. Hein.
C'est quoi ça?
Ça quoi? Ça, c'est difficile de donner des noms à tout. Appelez ça comme vous voudrez.
Et il disait souvent ça après, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien?
Comment?
Il disait, qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus rien?
Ah, il a posé cette question superbe. Qu'est-ce qui reste dans un homme quand il n'y a plus rien? La famille, l'amour, la culture... Tout. Apocalypse, zéro. Alors moi, je regardais, stupéfait, faire le trajet pour entendre ça. Il me dit, pourtant, il reste quelque chose d'essentiel que rien ne peut détruire. Une force, un nœud, ben, il faut mettre ça en mouvement, c'est tout. Il faut dérouiller ça, pour le mettre en mouvement. Et c'est facile à faire, hein. Si on a envie, si on a besoin, mais si on n'a pas besoin, ça fait. Mais si on a envie, c'est très facile à faire. Une seconde, 3 secondes. On est les mêmes, mais on regarde autrement. On dit autrement. On fait autrement. Pour tout. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ce soir? On essaie, on tâtonne.
On improvise.
Bah oui, on ne sait pas demain, on ne sait pas après-demain. Hein. Mais on a confiance, on avance. J'ai eu le coup de fil de lundi hier soir, donc j'avance. Et j'ai hésité, j'étais prête à sortir. J'étais sur le palier, ça sonnait. J'ai dit, allez, rentre, c'est important. Et c'était pour me dire, le livre a été donné à Europresse, voilà. J'étais arrivée en Inde. Maintenant, il y a un nœud dans ce livre, alors j'ai été obligée de vous le dire. À qui appartiennent les lettres de Sat-Prem? Voilà le thème. Nous avons un institut de recherche évolutive dont je fais partie, qui a verrouillé, qui a mis des barbelés en Inde, ils sont enfermés. Tout Sat-Prem leur appartient. Je ne sais pas de quel droit. Sat-Prem n'appartient à personne, ni à moi, ni à personne. J'ai reçu des lettres pendant 40 ans, je les publie. Il semble que je sois poursuivie. On verra. Si je serai morte, ce sera vous.
C'est pas eux qui les...
Comment?
C'est pas... Mais vous faites partie de l'Institut.
Je fais partie de l'Institut.
Oui. Et vous n'avez pas pu...
Mais on n'a plus de réunion, on n'a plus rien. Les agendas sont sur Internet, sont partout, les carnets partout. Ah. De Russie, on m'a appelé, ils ont des lettres en Russie, ils ont des lettres partout.
Pourquoi
on les sort pas maintenant? Parce qu'il n'y a personne. Il y a vous, sortez-les.
Pourquoi maintenant?
Il y a deux personnes, il y en a une en Inde et une à Paris qui s'occupe de tout ça et qui ont tout verrouillé parce qu'elles sont propriétaires.
Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la seule chose qui m'importait, c'est d'obtenir, pour la reproduction de ces lettres au niveau de la revue, dans le prochain numéro, d'avoir l'accord de son ayant droit. Son ayant droit est Yolande, puisque c'est à elle que ses lettres et ses courriers étaient adressés. Point. Et évidemment,
mais j'ai des lettres de Malraux, des lettres de Giscard, des lettres de machin. Il y a des tas de gens qui ont écrit à propos de ça. Alors, et ça après m'envoyait des doubles, souvent. Il ne m'a jamais dit, brûlez-les, déchirez-les. Ils ont gardé toutes mes lettres. J'ai plus une lettre à moi. Tout est parti.
Qui
je suis de bonne foi. D'ailleurs, ce que je disais avait moins d'importance.
Merci.
Je posais des questions.
Mais c'est pas très très grave. De toute façon, d'un point de vue en termes de droit, en termes de fondamental, après, de toute façon, c'est des rapports de force, ce sont des arguties, ce sont des...
C'est pas terminé, hein. C'est pour ça que ça a attendu beaucoup.
Ce qui montre bien que la transformation est en cours.
Mais c'est dans les obstacles qu'on a la...
La lumière.
Le levier.
Ou rien du tout. Je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Ou on va me faire un procès. Je ne peux pas assumer un procès. J'y tiens pas du tout. Je fais partie de l'Institut, je ne sais pas. Si vous n'étiez pas venu me chercher, ça resterait encore tranquille. Hein.
Ben oui, mais bon.
Ça y est, c'est la patate chaude.
C'est lui qui va avoir, c'est lui qui va avoir des ennuis, c'est pas moi.
Oui, parce que la revue, il y a des risques.
On aurait dû les inviter ce soir. Tiens.
Ce sera autre chose, on verra bien.
C'est absurde parce que Sadprem a écrit pour tout le monde. Il a des milliers de lettres partout. Les pitoyens en ont, tout le monde en a.
Mais c'est eux qui ont toutes les lettres. Alors tout ce qu'il a écrit sur des bouts de papier, c'est l'Institut de recherche évolutive qui a tout ça.
Ils se sentent propriétaires de tous les papiers concernant Sadprem.
Plus au-delà de ça, c'est dépositaire même.
Mais on peut être dépositaire et...
Il y a un nœud dans l'histoire, hein. Vous avez peut-être...
Oui, oui. C'est pas neutre, comme le dit Gilbert. Le moment où ce livre sort...
Ils sont partout, les livres.
Ce sont ces fameuses, soi-disant, coïncidences. Il y a rarement des coïncidences. Il y a des synchronicités, c'est ça.
Je vais vous donner les derniers mots qu'il m'a donnés. J'avais reçu un coup de fil à peu près la veille de sa mort. Je ne le savais pas. Il était malade depuis un an. Et on me téléphone pour lui trouver un genre acupuncteur parce qu'il avait des douleurs très violentes dans l'oreille. Un médecin m'appelle que je n'ai jamais vu. Il est parti avec moi le lendemain. On est arrivé chez Sadprem. Sadprem, il a traversé le jardin. Debout. Je l'ai bras dessus avec moi. J'ai apporté la photo. Incroyable. Et il m'a dit en me quittant, le vrai, le beau, l'éternel, seulement le fait divin. On ne se met en route que lorsqu'on est appelé. C'est tout ce que je sais. Alors vous verrez bien ce soir si ça appelle. Si ça appelle, il faut mieux dire oui que non. Parce qu'avec les noms, on ramasse des drôles de bûches. Hein. Voilà, c'est tout.
Oui.
Et après, ça va tout seul. C'est très marrant. Hein. Je vous assure que c'est très marrant. Ce sont ses derniers mots. Seulement le fait divin.
En tout cas, moi, je voudrais remercier Auroville France. Et Auroville, parce que si je suis allé à Auroville, c'est grâce à eux et à leur travail. C'est bien sûr grâce aux gens qui ont répondu à l'appel il y a 40 ou 50 ans. Et aux personnes qui ont maintenu tout cela. Et si on est là ce soir, C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mis en branle suite à cette visite là-bas. Donc on est dans des cercles, de boucles, et quelque chose continue. Et après, qu'est-ce qui se passera demain ou dans 15 jours? On verra bien.
Voilà les dernières photos de Saprem avec Sujata, qu'il a épousée, une indienne qui avait été élevée par Sri Aurobindo, en noir et en blanc. Vous avez les deux. Vous pouvez vous passer ça si vous voulez. Vous verrez, il est debout après avoir été tressonné. En fait, il a passé tout le temps dans le camp de concentration. On a pu le sortir du camp que sur une brouette. Les eaux traversaient la peau. Et sa mère, qui avait déjà 7 enfants, a dit, celui-là, je ne pourrai jamais l'assumer. Et elle m'a dit à moi, de mes 7 enfants, c'est celui qui m'a tiré le plus loin. Elle est venue en Inde le rejoindre. Alors, elle est venue avec son évangile. Alors, elle allait chez la mère avec l'évangile. C'était bien. Elle avait les deux.
Je pense qu'il faut, au cas où, énonçons cela,
faut lire un peu.
L'idolâtrie doit être évitée. En revanche, ce qui compte, c'est de sentir ce que ça fait bouger en vous, ce que vous avez pu entendre ou lire en continuant à lire, que ce soit avant ou après, précédemment ou à venir. Et surtout, donc, par rapport à ce mouvement, à ces ouvertures, à ces fissures que ça peut dégager, de quel côté ça vous amène? Et suivre, faire confiance.
Et surtout si c'est joyeux ou pas.
Oui.
Le critère, c'est la joie. Si ça marche comme ça, on avance, marche ou crève, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Moi, c'est mon slogan, ça va tout seul. Moi, j'ai tout dit, hein, ça va, à vous.
On va peut-être maintenant partager un verre ensemble. Et puis continuer à discuter.
Bon, moi
nous.
Je vous ai dit des
merci
trucs
beaucoup.
Comme ça en passant.
La dernière chose que moi je voulais dire avant qu'on. Voilà, c'est que numéro 3 va sortir.
On peut pas le.
On peut le réserver dès maintenant. Mais...
On peut les réserver maintenant, moi je réserve. Qu'est-ce que vous foutez là? Je n'en sais rien.